soir, la République démocratique du Congo a renouvelé son gouvernement depuis le week-end dernier. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde est maintenu à son poste de chef de l'exécutif. Sur les 58 membres de ce gouvernement, une dizaine seulement sont des nouveaux: Daniel Asselo, Jean-Jacques Mbungani, Moderon Simba, Gisèle Ndaya, Serge Kondé, par exemple, quittent le navire, alors que le gros de cette équipe reste les anciens du gouvernement remanié. Parmi les nouveaux membres du gouvernement, dont les noms sont toutefois déjà bien connus de la scène politique de la RDC, il y a Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Peter Kazadi Antipas, Moussa Nyamwisi, mais aussi Claude François Kabulo Moana Kabulo. Quelle lecture faire de ce remaniement du gouvernement de la RDC? C'est la question de base ce soir, et pour en parler, nous serons avec Jean-Claude Tshilumbayi, professeur d'université et député provincial et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. Jean-Claude Tshilumbayi, bonsoir.
Bonsoir.
Mais également Ferdinand Kambéré, bonsoir.
Oui, bonsoir Dona Madimba et bonsoir aux autres co-débatteurs.
Vous êtes secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo FCC, et enfin Trésor Kibangula, analyste politique et directeur du pilier politique à Ebouteli. Trésor Kibangula, bonsoir.
Bonsoir Dona Madimba.
À tous, bienvenue dans votre émission.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h, et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Quelque peu attendu, la République démocratique du Congo a renouvelé son gouvernement depuis le week-end dernier. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde est maintenu comme chef d'exécutif. Sur les 58 membres de ce gouvernement, une dizaine seulement sont des nouveaux: Daniel Asselo, Jean-Jacques Mbungani, Moderon Simba, Gisèle Ndaya, Serge Kondé, par exemple, quittent le navire, alors que le gros de cette équipe reste des anciens du gouvernement à remanier. Les détails avec Blaise Shindani.
Comme Gilbert Kankonde, avant lui, Daniel Asselo laisse le ministère de l'Intérieur. Le nouveau vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et Affaires Coutumières est Peter Kazadi. Jean-Pierre Bemba Gombo, président du parti politique MLC, est nommé vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. A Vital Kamerhe, son ancien directeur de cabinet, Félix Tshisekedi confie la vice-primature de l'économie nationale. Antipas Moussa Nyamwisi est le nouveau ministre de la coopération régionale, poste qu'il avait déjà occupé sous le régime de Joseph Kabila. Tchouminoua Toulouka Judith remplace Christian Mwando comme ministre d'État au plan. Christophe Lutundula, Jean-Pierre Liao, Eve Bazaïba Massoudi, Rose Mutombo, Alexis Guizarro, Aimé Boji, Pius Mwabilou, François Rubota, Guy Luando gardent leur fauteuil comme vice-premier ministre et ministre d'État. Eustache Mwanzi s'occupe désormais du ministère de la décentralisation et réforme institutionnelle. Présentateur et commentateur des événements sportifs à la télévision nationale congolaise, François Kabulo Moana Kabulo devient ministre des Sports. Si Nicolas Kazadi, Julien Paluku, Tony Mwaba, Mouindo Nzangi, Jean-Lucien Boussa, Patrick Mouyaya, Didier Boudimbu, Morendo Sakombi, Fabrice Puella ont été confirmés dans leur ministère, certains de leurs collègues ont changé de ministère. José Mpanda quitte la recherche scientifique pour l'agriculture. Gilbert Kabanda laisse la défense nationale à Jean-Pierre Bemba et devient le ministre de la recherche scientifique. Didier Manzenga quitte la coopération régionale pour le ministère du tourisme. Le nouveau patron du ministère de la santé publique, hygiène et prévention est Kamba Mulanda Samuel Roger. Et Kilali Kombo Marc prend le contrôle du ministère des transports, et le ministre de l'entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises est confié à Zinga Birianze Désiré.
Jean-Claude Tshilumbayi, professeur d'université et député provincial, cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. C'est vrai, hein, que depuis un moment, les Congolais attendaient un nouveau gouvernement. Mais puisqu'il a traîné, selon vous, était-il encore vraiment nécessaire et puis à 9 mois de la fin du premier mandat de Félix Tshisekedi?
Bonjour, Trésor. Bonjour, les auditeurs de Radio Okapi. Je pense qu'il y a eu des motivations qui ont déterminé le chef de l'État à procéder à ce petit réaménagement. Si vous observez bien, c'est quelques noms qui ont été juste tantôt mités, tantôt
ajoutés.
Placés. C'est pour des raisons que vous connaissez. Un, il y a eu un vide au niveau du ministère de l'économie. Devrait absolument être comblé. Ce vide a été dicté par la révocation par la chambre basse du ministre de l'économie qui est resté longtemps sans titulaire. Il y a eu aussi ces démissions en cascade de quelques membres de l'ensemble de Moïse Katumbi qu'il fallait absolument combler pour que le gouvernement fonctionne à plein régime. Et ça a été nécessaire. Et il y a chez nous, au niveau de l'UDPS, où le parti a changé quelques joueurs pour donner un nouveau souffle à l'équipe, notamment l'entrée de Maître Peter Kazadi et du docteur Kamba, qui sont des personnes que tout le monde connaît au parti et dans l'échiquier politique de la nation, des personnes de conviction et des personnes solides dans le travail qui vont insuffler un nouveau souffle à cette équipe. Et il y a aussi cette entrée, peut-être pas trop attendue, du président Jean-Pierre Bemba au ministère de la Défense nationale et du président Vital Kamerhe au ministère de l'Économie, des personnes qui sont connues tant pour leur attachement à la cause nationale, à la cause de l'État, que pour leur assiduité dans le travail. Et je crois que le chef de l'État a bien trouvé les pions pour ce petit réaménagement et pour des jours qui viennent. Bon, la question de savoir, à 9 mois des élections, je crois que le problème n'est pas celui-là en tant que tel. C'est une équipe qui répond à des préoccupations que chacun connaît. Un, nous avons cette guerre qui nous est imposée par le Rwanda, qui a infléchi notre système économique et déséquilibrer notre balance commerciale par notamment le blocus de certaines frontières, mais aussi les difficultés d'exportation de certains de nos produits, et cela a conduit à cette surenchère et à l'inflation sur le marché avec le retour du dollar. Je pense qu'il était absolument nécessaire de donner du nouveau souffle à cette équipe Samuel Kondé qui a prouvé qu'elle était une équipe très 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 compétente, très capable, avec les réalisations que vous avez vues, que personne aujourd'hui ne peut méconnaître, notamment l'amélioration de la qualité de la finance publique, mais aussi la hausse et l'augmentation du budget de l'État. Je pense qu'il était temps de le faire, et 9 mois, ce n'est pas peu pour mieux faire.
Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu exagérément optimiste du bilan du gouvernement qui vient d'être remanié, pour ne pas faire une liste exhaustive sur le plan de l'économie par exemple, malgré ce que vous présentez comme des éléments positifs, tous les jours ici les gens dénoncent le fait que la monnaie a perdu de sa valeur et donc aussi le pouvoir d'achat. Au niveau de la défense, les populations attendent toujours que le M23 soit bouté dehors et que les localités et territoires qui peuvent encore être sous son occupation puissent entièrement revenir aux forces régaliennes. Ne fût-ce que sur ces deux points, est-ce qu'il n'y a pas quand même échec?
Non. Je ne sais même pas pourquoi les gens ne comprennent pas. Il faut poser la question aux gens qui parlent. J'ai entendu, il y en a qui ont scandé partout que c'était une erreur que le secrétaire général de l'UDPS dise que la guerre était la cause de l'inflation actuelle. C'est l'unique cause de l'inflation actuelle. Il a été prouvé que la gestion des finances publiques a été ambitieuse, qu'elle nous a amené à un niveau que tout le monde reconnaît aujourd'hui. La guerre est véritablement la cause actuelle de l'inflation que nous sommes en train de vivre, qu'il n'y a pas d'autre justification possible.
Professeur, l'insécurité, j'espère, sauf si nous n'avons pas fait attention aux terminologies que vous employez, est-ce que quand vous parlez de guerre, ça signifie insécurité? Si ça signifie insécurité, l'insécurité à l'Est est bien antérieure, hein, même au régime du Félix Tshisekedi, mais la monnaie nationale n'avait pas perdu autant de valeur.
Rappeler les dimensions.
Allez-y.
Il faut rappeler les dimensions. Ça nous fait toujours plaisir lorsqu'on parle de Sukhoi 25 qui décolle, qui bombarde, qui contiennent les voyous, les terroristes du M23. Et on ne se pose jamais la question de savoir combien coûtent les munitions que le Sukhoi 25 utilise. On ne se pose jamais la question de savoir combien coûte un drone et les munitions que le drone peut utiliser. On ne se pose jamais la question de combien coûte que nos militaires utilisent au front en cette période particulièrement difficile. Et ça, c'est des gens qui pensent que la vie est restée régulière comme elle a été durant ces quelques années, même si on avait toujours cette récurrence et cette insécurité endémique à l'est du pays. Mais la réalité là, c'est que notre rythme de dépenser de l'argent, et ça il faut poser la question aux parlementaires, quel budget ils ont adopté pour la défense au début de l'année passée, au début de cette année, lorsque probablement ils n'avaient pas tenu compte de cette nouvelle réalité que le Rwanda allait nous agresser avec les apports de financement que l'Union européenne du pouvoir autour de faux motifs de soutien de l'intervention au Mozambique et ailleurs. Et pour faire face à tout cela, face à une armée étrangère qui bénéficie des appuis connus comme ceux de l'Union européenne, il fallait changer évidemment notre rythme de financement de ce désordre. Ça devrait impacter, absolument impacter notre économie. En dehors de cela, il y a ce fait que vous allez trouver que c'est Trump aussi dans cette asphyxie plutôt, qu'ils ne savent pas se mouvoir et déployer leurs efforts, déployer leur dynamisme économique qu'on connaît souvent. Le tourisme a baissé dans ces régions-là parce que c'est l'un des facteurs, les trois facteurs d'importation des devises chez nous ici au Congo. Nous en avons trois essentiellement. On a les minerais que nous exportons, on a l'investissement direct étranger et le tourisme qui nous permet d'importer des devises. Lorsque ces facteurs-là connaissent une baisse, tout intellectuel bien formé, tout universitaire qui ne soit pas économiste, sait que la monnaie locale doit en subir le coût, il faut le savoir. Aujourd'hui, les investisseurs qui ne peuvent pas venir au Congo parce qu'il y a cette nouvelle folle de la guerre du Rwanda contre la République démocratique du Congo, les touristes dont les régions de l'Est étaient la principale destination depuis plusieurs années, de la devise qui ne peut pas venir au pays parce qu'il y a des frontières qui sont qui connaissent des difficultés, Bounagana et autres, comment on pouvait croire que résolument c'était normal qu'on continue de penser que la situation économique était demeurée la même?
Professeur, on a compris votre argumentation. Nous n'allons stigmatiser personne dans le nouveau gouvernement, mais quelques préoccupations sont quand même récurrentes. Alors, Monsieur Jean-Pierre Bemba rentre dans le gouvernement. Tout le monde en RDC connaît plus ou moins son passé, dont celui d'un guide, hein, d'un leader sur le plan des forces combattantes. Est-ce que le président de la République, Félix Tshisekedi, fait entrer Jean-Pierre Bemba dans le gouvernement et lui confie la défense, entre autres à cause de cette expérience, et attend de lui qu'il joue un rôle pour mettre fin à cette insécurité à l'Est?
D'abord, ce n'est pas sérieux de ne parler que de Jean-Pierre Bemba. Nous avons eu Maître Moudoumbi dans ce pays, ministre, nous avons eu Moïse Nyarugabou, nous avons eu Maître Azaria Sourberoa, déjà sur qui des soupçons de crimes très graves ont pesé, des Kasika, des Mwenga, des Makobola, des gens qui ont géré des mouvements sous l'auspice desquels on a pilé les enfants et les mamans dans des mortiers, on les a mangés. Ça, vous n'en avez jamais entendu parler. et que les crimes commis à Kisangani où les troupes rwandaises et ougandaises se sont affrontées dans la ville et ont fait plusieurs milliers de morts. Donc, on a eu tous ces gens-là, on a dû partager avec eux ici, avec toute la sympathie qu'on a pu avoir avec eux. Jean-Pierre Bemba, lui au moins, à la différence des autres qui ont bloqué toute possibilité que la vérité soit présentée devant un juge, lui a été devant un juge qui l'a blanchi. Et pour cette raison-là, moi j'estime qu'il est parmi les citoyens les plus potables pour gérer ce pays. Lui s'est présenté devant le juge, et pas n'importe quel juge. La Cour pénale internationale, on n'y va pas avec un poulet pour corrompre. Et que ce juge l'a blanchi, il est redevenu aujourd'hui un citoyen normal, à moins que vous ayez trouvé d'autres accusations possibles qui justifieraient que le chef de l'État ne lui fasse pas confiance.
Mais est-ce que le président de la République nomme notamment Jean-Pierre Bemba à cause de son expertise dans la conduite des combats, par exemple?
Non, je ne pense pas que ça soit la seule justification. D'abord, nous parlons d'un leader politique qui a prouvé qu'il était capable de captiver une certaine attention de son peuple par son discours, par sa manière de faire, par sa fidélité dans son engagement. D'un leader politique qui a témoigné qu'il avait le souci de voir nos compatriotes de l'Est vivre en paix. Il a dit à plusieurs reprises dans ses campagnes
dans ses prises de position. Tout à l'heure, vous avez parlé de Vital Kamerhe. Est-ce que le président de la République n'a pas quand même hésité à le nommer, vu que dans l'opinion publique, hein, entre autres positions que les populations peuvent avoir, il n'y a pas que de positions négatives, mais entre autres positions plus ou moins négatives sur Vital Kamerhe, c'est le fait qu'il a été mêlé à une affaire de détournement, qu'il est là passé du temps en prison, même si la justice l'a blanchi. Est-ce que le président de la République ne pouvait pas se passer de ses critiques?
Où nous sommes une république, où nous ne le sommes pas. Lorsque nous sommes une république, nous respectons l'institution judiciaire, c'est sacré. C'est le métier que Dieu a confié à certains d'entre nous. Et que lorsque la justice a dit que quelqu'un est propre, ne demandez pas à ce que de juger à la place de Dieu, parce que les juges sont des envoyés de Dieu. La justice a dit que M. Vital Kamerhe était propre et que c'est un fils de ce pays qui a mené le combat du changement avec Félix Tshisekedi. Vous n'allez pas demander à Félix Tshisekedi d'aller juger la justice. Où nous sommes une république, où nous devenons autre chose. Il faut que les gens se respectent.
Merci.
C'est ça la constitution.
Merci beaucoup, professeur. Nous revenons à vous. Les débats continuent. Ferdinand Kamberé, secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo FCC. Lorsque vous avez découvert la mouture du nouveau gouvernement remanié de la République, quelle était votre première réaction?
Merci, Donald. Laissez-moi aussi saluer les autres co-débatteurs, mon cher frère et ami professeur Chilumba et puis Trésor Chibangula. Je crois, comme vous le dites, la première réaction qui est, vous vous en doutez, dictée par les attentes de la population par rapport aux défis majeurs qui sont posés à la République. En tout cas, c'était pas ce gouvernement de statu quo, un gouvernement sans alternative qu'attendait la population. Vous n'avez qu'à voir l'opinion, non seulement à l'interne, mais aussi à l'extérieur du pays. Et c'est là, ça tombe mal. C'est même 23 mars que Félix va quand même choisir pour publier ce gouvernement. Deuxième mauvaise coïncidence, c'est selon nous, hein, c'est celle que le gouvernement, il sort la nuit, mais c'est cette même nuit que le président Museveni, qui a toujours dit que la force régionale des East African Community ne viendra pas, qui sont en train de faire leur entrée à scandaliser la population du Nord Kivu, à scandaliser la population de toute la République. La troisième mauvaise coïncidence, c'est lorsqu'on voit l'ancien président Sarkozy, juste après le retour du président français Emmanuel Macron, mais annoncé, parce que on l'a vu avec d'abord les ministres et puis avec les présidents de la République, annoncé comme un conciliateur, sinon médiateur, entre le président Tshisekedi et Kagame. Alors, dans ces circonstances-là, quand on nous sort un gouvernement, c'est celui des gens qui ne sont pas nouveaux. C'est celui de ceux-là qui sont les coachs de l'Union sacrée. C'est celui de tous ceux qui ont conçu avec le président Tshisekedi, l'état de siège, la mutualisation des forces FRDC et les UPDF, et aussi cette adhésion à l'Est African Community comme une solution à l'insécurité à l'Est, alors qu'on sait bien que ces pays-là qui constituent cette force régionale sont les parrains de Jean-Pierre Bemba, les parrains de Moussa Niamoussi. Maintenant, on ne sait pas vraiment comment croire qu'avec un pareil gouvernement, il y aura l'alternative qu'attend la population. Ça veut dire sécuriser l'Est, ça veut dire être capable de faire la guerre contre le M23. Lorsque un discours du gouvernement, c'est que la force régionale vient neutraliser le M23, après, alors que tous les chefs d'État de ces pays-là, membres de cette communauté Est-Afrique, de la communauté de l'Est-Afrique, tous ces chefs de l'État, personne n'a soutenu la thèse de notre gouvernement pour dire qu'il y aura une guerre ou une neutralisation des FARDC. Tout soutient qu'ils viennent amener les M23 à négocier avec notre gouvernement. Et c'est dans cet agenda-là qu'on place un gouvernement, alors que, en plus de cela, nous sommes dans un processus politique, vous le savez, qui est aujourd'hui en panne à cause de l'entêtement du pouvoir, où on nous oblige d'être avec une CENI non consensuelle, et même lorsque celle-ci agit en solo, cette CENI, les opérations préélectorales qu'elle est en train de mener, même là où il y a des guerres, des groupes armés, où la sécurisation de ce processus-là n'est pas assurée, la qualité même. Nous ne sommes pas sûrs du fichier électoral qui pourra être fiable du tout, et c'est dans cet imbroglio-là que ce gouvernement vient, et alors on se dit, alors c'est un gouvernement du statu quo, ils sont dans un gouvernement qui vient assurer un forcing, pour nous ramener tout droit dans un chaos.
Mais Ferdinand Kambere, est-ce que ce n'est pas légitime pour la majorité ou le régime qui dirige de faire les choix qu'il veut? On a écouté vos critiques sur quelques personnalités de ce gouvernement. Nous n'avons aucun avis à émettre sur cela, ce sont vos jugements. Mais dans ce gouvernement, il n'y a pas que ceux sur qui vous avez des soupçons. Il y a d'autres nouvelles personnes qui, elle, pourrait ne pas bénéficier de quelques soupçons. Vous parlez du processus électoral. Au niveau, par exemple, de l'encadrement, au niveau du ministère de l'Intérieur, il y a une nouvelle personne qui vient d'arriver. Par exemple, à ce niveau-là, est-ce que ça ne vous sécurise pas plus d'autres nouveaux qui, eux, ne sont pas mêlés aux critiques que vous avez formulées tout à l'heure?
Non, ça veut dire, nous, de l'opposition, le problème, ce n'est pas la personne de Mboussa, ou la personne de Jean-Pierre Bemba, ou la personne de Kamere, ou la personne de Peter. Le problème, c'est cet engrenage dans lequel a coincé le pays, le président Félix. Ce sont ces accords-là, ces adhésions qui sont déjà là, où, en réalité, vous invitez des troupes qui ne viennent pas faire la guerre. Comment il va faire? Quelle que soit la volonté de Mboussa, quelle que soit la volonté de Kamere, quelle que soit la volonté de Jean-Pierre Bemba, nouveau ministre de la Défense, qui peut avoir pour vouloir peut-être très rapidement reconditionner notre armée, lui donner les moyens nécessaires, est-ce que les accords qui nous obligent, nous, à être dans cette communauté, dans cet accord signé à Nairobi, pour que ce soit le commandant Kenya qui va lui diriger les opérations à l'Est, est-ce qu'il sera efficace? Je dis non. Donc le problème, ce n'est pas les personnes qui sont entrées. Le problème, c'est que la vision de Félix à elle-même
avec les accords dans lesquels il a foncé le pays, que ce soit la volonté de ces anges qui viendraient, ils ne feront rien du tout dans l'espoir de ramener très rapidement la sécurité à l'Est, d'empêcher que les groupes armés n'insécurisent plus, ne déstabilisent plus l'Est, ne massacrent plus, parce que tous sont confortés, que ce soit du M23, que ce soit des EDF, que ce soit ces autres groupes armés locaux. En tout cas, rien ne rassure, la population ne se sent pas en sécurité.
Mais Ferdinand Gambéré, oui, tout à fait, Ferdinand Gambéré, il y avait au sein du gouvernement actuel quand même une absence d'au moins trois ministres titulaires. Fallait-il laisser cela comme ça jusqu'aux élections d'ailleurs, hein, dans lesquelles vous semblez ne pas être très engagé, votre parti ou votre famille politique? Que devait faire le président de la République avec notamment trois vides de le ministère? Ne devait-il pas au moins profiter de ces vides pour peut-être restructurer son équipe gouvernementale, espérant lui donner des forces supplémentaires?
Mais c'est son choix et c'est son droit de choisir qui il veut. Mais c'est aussi le droit de l'opinion de le juger par rapport au choix qu'il fait face aux défis qu'il est en train d'affronter. C'est ça le grand problème. Vous placez un tel par rapport aux défis qui sont là, et nous, de l'opinion, nous pouvons nous faire un jugement pour dire qu'ils ne seront pas efficaces compte tenu de ça et de ça et de ça. Le reste, c'est lui, parce qu'il veut assumer jusqu'au bout, mais il va assumer jusqu'au bout, et à la fin, ça sera quand même le souverain qui va les juger. Et c'est pour cela que nous réclamons les élections, et que de bonnes élections soient organisées avant la fin du mandat. Parce que les trois personnalités ou quatre sont toujours ceux-là qui étaient consultés pour mettre en place ce qu'il a comme stratégie pour vouloir dire qu'il veut ramener la paix et la sécurité à l'Est, alors que ça n'a donné que des résultats contraires.
Merci Ferdinand Gambéré. Nous vous gardons aussi dans ce débat. Trésor Kibangula, analyste politique et directeur du pilier politique et Boutelli. Finalement, la RDC a décidé de renouveler son gouvernement. Vous venez d'entendre, hein, il y a un camp, le camp du président de la République qui est optimiste et s'enthousiasme de ces nominations, de cette nouvelle équipe, et indiquant qu'il y a des espoirs sérieux pour l'avenir. Et le camp opposé, Ferdinand Gambéré, et notamment du FCC, qui lui est pessimiste de cette mise en place du nouveau gouvernement. Quelle est votre analyse de tout cela?
Oui, c'est très intéressant d'écouter justement les deux camps. Je pense que le président Félix Tshisekedi est resté pragmatique. Hein. On est à quelques mois des élections, il fallait resserrer les rangs de l'Union sacrée autour de lui, surtout. On voit entrer dans ce gouvernement de gros poissons comme Jean-Pierre Bemba, même si on connaissait déjà qu'il était rallié, il était rallié au président Félix Tshisekedi, mais il y avait un léger doute sur sa possible candidature. Ricard Kamere aussi, et aujourd'hui, en réussissant ses coups politiques, de faire entrer deux petits gros poissons dans son gouvernement, les présidents s'assurent que Jean-Pierre Bemba et Vital Kamere demain battront campagne pour son second mandat.
Selon votre analyse, vous pensez que M. Kamere et Bemba, par cette entrée dans le gouvernement de Félix Tshisekedi, ne pourront plus se présenter comme candidat présidentiel? Rien de légal ne leur interdit de le faire.
Aujourd'hui, rien ne les interdit de le faire, mais stratégiquement, lorsqu'ils acceptent d'entrer dans les gouvernements, c'est pas pour être concurrents dans quelques mois face à Félix Tshisekedi. Ce serait vraiment absurde. Et voilà, les chances de voir ces deux gros poissons se présenter contre Félix Tshisekedi aujourd'hui sont vraiment très moindres. Surtout que dans cette nouvelle restructuration, le président Tshisekedi a tenu quand même à garder la main. Vous voyez, il y a Jean-Pierre Bemba et Vital Kamere qui arrivent, même Moussa Niamis qui arrivent au gouvernement, ils n'ont pas les postes de Premier ministre. Il y a un moment donné, lorsque Vital Kamere était acquitté dans le procès des 100 jours, il y avait des rumeurs persistantes à Kinshasa qui pourraient rebondir au gouvernement, qui pourraient être le Premier ministre. Et aujourd'hui, il n'en a été rien du tout parce que le président a voulu garder la main, montrer à ces gens qui viennent rejoindre son,
son regroupement.
La plateforme, voilà, qui était lui le maître du jeu. C'est pourquoi il garde Jean-Michel Sama. On sait que Jean-Michel Sama, politiquement, il n'a pas une grosse influence qui pourrait faire ombrage au chef de l'État. Du coup, si Sama Lukonde est reconduit alors qu'il y a des gros poissons qui rentrent au gouvernement, quand même, c'est un signe que c'est le président de la République qui garde la main.
Président Kibangula, dans l'opinion, reste quand même plus ou moins divisé, hein, par ces nominations. Il y a d'un côté ceux qui argumentent que le président de la République, par la nomination de certaines personnes, a pris des risques et il pourrait en payer le prix. Il y a aussi ceux qui, de l'autre côté, voient toutes les nominations comme vierges blanches et à encourager. Y a-t-il, selon vous, des nominations qui vont faire perdre des points au président de la République, et y en a-t-il qui vont le lui faire gagner, et en gros, gagnera-t-il beaucoup plus qu'il perdra, ou le contraire?
Je pense que c'est les réponses à ces questions, on les aura peut-être dans quelques mois, mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, que c'est des visées électoralistes pour la plupart, remettre sur la scène politique Vital Kamerhe, peut-être pour essayer de le voir battre campagne à l'Est pour le président Tshisekedi, ou Jean-Pierre Bemba au nord du pays. Voilà, ça c'est un capital que le président Tshisekedi veut miser dans cette histoire, même si un autre volet de cet enjeu, c'est aussi les dynamiques, hein, ce qui se fait à l'Est. On en a parlé les co-débatteurs tout à l'heure. Jean-Pierre Bemba, c'est quelqu'un avec, on ne sait pas si l'économiste, qui font partie un peu de ce qu'on pourrait appeler le réseau Museveni. On sait que le MLC a été appuyé par, c'était un groupe armé, hein, c'était appuyé par l'Ouganda, le RCD-KML des Museveni également. Donc aujourd'hui, voir ces réseaux émerger, ces réseaux pro-Museveni à l'époque, dans un passé récent, émerger au sein de la présidence de la République, pour prendre la place finalement à un autre réseau parallèle qui existait, les réseaux Bisselele. On sait aujourd'hui que Bisselele est en prison. Donc les réseaux Bisselele avaient tenté dès le début du mandat du président Tshisekedi de faire ces rapprochements entre le président Kagame du Rwanda et le président Tshisekedi. On connaît toutes ces tentatives du président Tshisekedi au début, l'état-major intégré pour faire venir tous les états-majors régional à l'Est, et des tentatives qui ont échoué, et aujourd'hui l'idée serait peut-être de tenter autre chose avec des personnalités congolaises qui connaissent les acteurs régionaux. On sait que Jean-Pierre Bemba est antipathique pour avoir été parrainé à un moment donné avec
ces pays.
Connaissent les causes de ces pays et pourraient peut-être imprimer une nouvelle dynamique à la fois pour sur le processus de Nairobi ou de Luanda. Là, on verra comment est-ce que Antipas Musonyamiti va jouer, et Jean-Pierre Bemba, comment est-ce qu'il attend qu'ancien chef militaire, peut-être les côtés symboliques comptent beaucoup ici, comment est-ce que lui qui a mené une rébellion, qui a peut-être cette image de chef de guerre pourrait peut-être impulser
apporter du nouveau au président Tshisekedi. Alors, Trésor Kibangula, nous avons ouvert le standard pour faire réagir nos auditeurs, et pour vous, vous allez réagir après le commentaire de cet auditeur de Mbandaka.
Maître Trifel Nzoko depuis Mbandaka. Ces remaniements répondent à des calculs électoraux que sociaux, vu que nous sommes dans une année électorale. La présence de Jean-Pierre Bemba dans ce gouvernement, c'est pour garantir au président Tshisekedi l'électorat des Grands Équateurs. Alors que Vital Kamerhe n'est là que pour offrir les grands kivus au président Tshisekedi. Ce n'est pas en 9 mois qu'on peut réaliser ce qu'on n'a pas pu faire d'ira 4 bonnes années.
Trésor Kibangula, c'est un peu plus ou moins ce que vous disiez tout à l'heure, légèrement un peu plus.
Oui, c'est un des aspects, ce n'est pas... Le président Tshisekedi n'a pas fait ses remaniements, essentiellement pour cela, mais ça fait partie de calculs politiques, hein, comment est-ce que ces deux gros poissons pourraient apporter un capital électoral. Peut-être là où il y a à nuancer, c'est que que ce soit Jean-Pierre Bemba, on les sent moins actifs. Aujourd'hui, il faudra mesurer réellement son poids électoral des maires dans la province de l'Équateur, de la région de l'Équateur, parce que nos sondages, nos récents sondages montrent quand même son poids électoral dans l'ensemble du pays assez moindre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent pouvoir voter Jean-Pierre Bemba s'il était demain candidat, se retrouvent dans cette région-là, et si Jean-Pierre Bemba appelle demain les gens de cette région du Nord à voter pour Tshisekedi, peut-être que c'est le mot d'ordre là va être entendu. Mais là où les bas blessent dans ces débats ou dans cette entrée de Jean-Pierre Bemba ou d'autres, ou de Jean-Pierre le gouvernement, c'est à la fois un discours du gouvernement de Félix Tshisekedi qui allait vers la justice transitionnelle, vers la nécessité de recourir aux instruments de justice transitionnelle. On sait combien la première dame s'est impliquée pour que le projet de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix, l'implication de la première dame a été très manifeste pour que ce projet soit adopté fin décembre 2022 à l'Assemblée nationale. En même temps, il y a le gouvernement qui parle de la nécessité de mettre la commission en place, une commission de vérité, justice, paix et réconciliation, d'adopter des lois pour organiser des sanctions de la justice transitionnelle, qui normalement doit couvrir les années de rébellion, interroger notre passé pour savoir qui a fait quoi pour que la justice puisse passer. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit dans l'armée, on a des généraux qui sont soupçonnés d'avoir commis des crimes lorsqu'ils étaient des rebelles. On a des chefs politiques aussi, des ministres, même aujourd'hui des vice-premiers ministres, qui sont aussi soupçonnés. J'ai entendu le professeur parler du fait que Jean-Pierre Bemba a été blanchi devant la Cour pénale internationale, mais il faut quand même rappeler à nos auditeurs qu'il a été blanchi pour des crimes commis par ses troupes en Centrafrique. C'est pas pour des faits et des crimes dont ces troupes sont soupçonnées d'avoir commis sur les territoires congolais. Donc, c'est là où on nous rappelle toujours qu'il faut, à un moment donné, que les pays acceptent de faire passer la justice en premier, parce que si on continue à propulser des gens sans, alors qu'il y a ces mécanismes-là de justice conditionnelle qui sont en route, ben, des personnes qui sont à la fois impliquées, on ne sait pas comment est-ce que cette machine pourrait se mettre en branle.
Merci, Trésor Kibangula. Jean-Claude Chilumbay, professeur d'université, député provincial et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. Vous allez aussi réagir après avoir écouté cette analyse de l'auditeur qui nous appelle depuis Lubumbashi.
Sakodi Pauni Désiré, depuis Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Je pense que le remaniement du gouvernement tel que fait est une erreur de la part de Monsieur le Président de la République. Car à mon avis, c'est un gouvernement qui consacre le retour aux affaires des figures longtemps connues des Congolais. C'est aussi un gouvernement qui sera difficile à manager et qui va créer des conflits de leadership. Vous avez par exemple pour un seul parti politique, le président est nommé vice-premier ministre et sa secrétaire générale est ministre dans le même gouvernement. En outre, le gouvernement vient aussi faire taire les rumeurs selon lesquelles il y aurait un accord entre l'UDPS et l'UNC qui stipulait que Kamere devrait être candidat aux élections présidentielles en 2023 et qu'il devrait être soutenu par son allié au pouvoir aujourd'hui. Aussi faut-il dire que l'UDPS a réussi à empêcher les potentiels candidats aux élections présidentielles en leur offrant des postes ministériels. Et ils n'auront plus de moyens de faire pression sur l'UDPS quant à l'éventuel respect des accords. Je vous remercie.
Professeur Chilumbay.
Notons que l'accord entre Vital Kamerhe et le président Tshisekedi, c'est un accord privé entre deux partis politiques. Il n'appartient pas à la nation d'en faire un programme de société. Ce qui est clair, c'est que le président Vital Kamerhe l'a déclaré, il l'a dit en public ou en privé, qu'il était là pour soutenir le deuxième mandat du président Tshisekedi. Ça ne concerne pas les tiers, c'est une affaire privée entre l'UDPS et l'UNC. Sur la question de gestion de leadership, je ne pense pas que ce soit vrai. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que l'on rencontre cette situation. Pour des gens qui pensent que pour Jean-Pierre Bemba, avoir été vice-président est plus grand que d'être ministre de la Défense nationale, ce n'est pas vrai. Et un ministre plein pouvoir, un vice-premier ministre avec portefeuille, moi je crois que c'est plus important que d'avoir été vice-président dans un régime de transition, il n'avait pas d'attribution claire. Ce qui dit a beaucoup plus respecté l'aura de M. Jean-Pierre Bemba que ne l'avait fait Joseph Kabila. En ce qui concerne l'argument de retour aux affaires des figures déjà connues, le Congo n'en fait pas l'exception. Tous les pays du monde ont cette réalité que des gens gèrent aussi par l'expérience et la connaissance de la vie politique et de leur pays, et ça ne peut pas être considéré comme des failles de ce gouvernement. La question de savoir s'il s'agit de garantir dans l'Équateur la réélection du président Tshisekedi, moi je suis un cadre de l'UDPS, je m'occupe des élections à l'UDPS, je peux rassurer que nous n'avons pas de peine dans l'Équateur, encore que il faut rassurer que l'Équateur est suffisamment grand, avec de nombreux leaders qui ne sont pas aussi les moindres. Nous travaillons déjà avec Guy Luando, avec Jean-Lucien Mboussa, je ne peux pas citer tout le monde, avec le vice-premier ministre Liaou. C'est pour vous dire que nous pouvons toujours faire les élections sans forcément que l'on fasse des calculs politiques de cette nature-là, qui soient des calculs sournois. C'est le cas exactement aussi dans le Sud Kivu, où nous nous sommes déjà ralliés avec des gens aussi importants, et l'île de Pès est suffisamment épais, représentée dans le Sud Kivu. Donc, ces raisons-là n'ont pas justifié la motivation du président de la République pour qu'il forme ce gouvernement qui n'a tenu compte que des considérations d'intérêt national, il faut le retenir. Et lorsque l'honorable Kambere, le SPA Kambere, parle du statu quo, d'abord, l'alternance dans un gouvernement, ce n'est pas une question de l'opposition, c'est les choix du président, de celui qui a gagné les élections, de celui qui dirige la majorité, qu'il ait choisi le statu quo, c'est sa volonté. On n'a pas, nous, à se justifier devant l'opposition pourquoi on choisirait le statu quo. Et des questions comme on en parle, la médiation de Sarkozy, ça n'a jamais été le cas. Ce qu'elle dit n'est pas Kabila. Il n'a pas besoin de la médiation de Sarkozy. Le président Tshisekedi a engagé ce pays et les fils de ce pays dans la bataille pour la défense des intérêts de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Il n'a pas besoin de médiation avec quelqu'un qui agresse notre pays et que l'ancien régime a permis de se jouer, de se balader dans ce Congo comme si c'était un panier. Lorsqu'on dit qu'on condamne le fait que le président fasse inviter les troupes qui ne combattent pas, mais ça ne peut pas venir d'SPA Kambere, il en a une grande expérience. La MONUSCO elle totalise 23 ans dans ce pays sans mandat offensif, il le sait. À un moment donné, on a été même amené à obtenir une résolution de création d'une brigade d'intervention au sein de la MONUSCO, parce qu'effectivement, elle a été créée comme mission d'observation. Elle a été invitée, bien évidemment, par Kabila, conseillée par l'honorable Kambere. Et c'est cette leçon des élections avant la fin du mandat que nous refusons de recevoir du FCC et du PPRD. Le PPRD et le FCC n'ont jamais organisé des élections avant la fin des mandats, il ne peut pas nous l'apprendre. Ça, nous le faisons par notre propre volonté, par devoir et l'engagement que le président Tshisekedi a pris avec notre population, pas parce que nous écouterons un quelconque conseil du PPRD d'organiser les élections dans les délais. Ça n'a jamais été dans le vocabulaire et dans la culture politique du PPRD. Nous allons tenir les élections dans les délais constitutionnels. Et nous savons que c'est des élections auxquelles le PPRD a choisi de ne pas participer, c'est aussi un vote. Nous, l'UDPS, nous l'avions fait en 2006, ça n'a pas arrêté le Congo. Le 30 décembre, nous irons aux élections, que nous allons d'ailleurs gagner parce que nous les préparons, nous les organisons. On n'a pas besoin d'une leçon de délai constitutionnel du PPRD, non.
Merci, professeur Tchulumbay. Ferdinand Kambéré, secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo FCC. Nous allons écouter pour vous cet auditeur de Kinshasa.
Justin Sampo, depuis la ville province de Kinshasa. À mon avis, je salue ce mouvement qui vient de s'opérer au niveau de l'exécutif national. Kamere n'est pas n'importe qui sur la politique de notre pays. Et Jean-Pierre également, mais il convient de souligner que ces deux leaders doivent travailler en collaboration avec les chefs de l'État pour relever les défis qui sont énormes, notamment sécuritaires, économiques et j'en passe. Ils doivent comprendre aussi que le peuple congolais a un regard fixé sur leurs actions qu'ils vont poser.
Ferdinand Kambéré.
Merci beaucoup à ce leader aussi qui a compris que effectivement ce qu'on attendait d'un remaniement, ce n'est pas l'alternance, professeur Tchulumbay. Nous, on n'a pas besoin de se fourrer le pied dans votre gouvernement. On n'en a pas besoin. Nous parlions de l'alternative du marasme politique, du marasme économique, du marasme sécuritaire dans lequel vous avez plongé le pays. Le peuple a besoin de solutions alternatives, pas l'alternance. Personne n'a demandé d'entrer dans votre gouvernement là-bas. Ça, c'est d'abord un. La question de l'organisation de l'essence, je crois que ce n'est pas l'IDPS à la lire où il a montré ses limites de ce qu'il se disait démocrate, à croire que lui a plus de leçons à donner qu'à recevoir. Nous voulons simplement rappeler à l'IDPS à travers le micro de Radio Okapi que l'organisation des élections, ça ne sera pas la volonté de Tshisekedi, ni de l'IDPS. C'est une obligation constitutionnelle. Ce n'est pas un privilège que vous organisez avec votre cadre d'image, une série non consensuelle, non acceptée, une cour constitutionnelle acceptée par personne, avec des opérations déjà préélectorales pour rien que l'enrôlement et l'identification. C'est le chaos total que vous avez organisé et vous vous vantez que vous allez organiser au 30 décembre des élections. Quelles élections allez-vous organiser? Nous n'avons jamais dit que nous renonçons aux élections. Nous exigeons, et toute l'opposition dans l'ensemble, dans sa pluralité, nous continuons à exiger l'organisation des bonnes élections et à dater chier, professeur Tchulumbay. Ne vous trompez pas que vous constituez entre vous un groupe d'amis, un gouvernement, et que donc de ce gouvernement, vous allez faire n'importe quoi et parler des élections. Nous avons organisé, 2006, il y avait des élections, à 2011, on les a organisées, c'était après 5 ans. Vous ne pouvez pas prendre que la référence de 2018, encore qu'ici, lorsqu'on vous attend chanter, c'est pour déjà dire non, il y a eu interprétation de l'article 70. Pour cette fois-ci, il n'y en aura pas. Il y a eu un consensus politique qui était une clé politique pour peut-être mieux interpréter l'article 70. Et on a tous accepté ensemble, toute la classe politique et la société civile, ce n'était pas que la volonté du PPRD ou du FCC. C'était toute la classe politique et la société civile qui, ensemble, s'étaient mis sous la table pour trouver une date pour aller aux élections à 2010.
Ferdinand Kambéré, en conclusion, puisque aujourd'hui, c'est plutôt l'analyse du nouveau gouvernement qui venait d'être mis en place, vous l'avez déjà dit, hein, mais vous continuez en guise de conclusion de dire que ce gouvernement ne changera pas grand-chose. Et que avant et après ce gouvernement, les choses restent pareilles.
Oui, oui, ce gouvernement est en train de rêver et croire qu'il peut faire un forcing avec une organisation de processus électoral chaotique et comme ça, avec des machines distribuées aux députés, d'autres qui se font enrôler dans des salons, d'autres au marché, et que c'est ça qu'ils appellent un processus électoral responsable. Non. Ce n'est pas de ça, ce n'est pas de ça, et je crois que l'IDPS devait se taire et plutôt demander même pardon. Imaginez que même dans des zones aussi insécurisées comme cela, on a vu des centres d'inscription comme ça c'est utilisé par des groupes armés sans permis, sans quoi.
Merci Ferdinand Gambéré. L'émission d'aujourd'hui, nous le rappelons encore, était circonscrite autour de l'analyse du gouvernement remanié Samalou Kondé II. Merci à tous les trois messieurs pour votre participation à cette thématique-là. Les enjeux et les liens sont nombreux entre différentes thématiques de la vie de la nation. Merci à Ferdinand Gambéré, à Trésor Kibangula et à Jean-Claude Chilumbay pour votre participation à cette émission. Polydor Basunga et Guy Maté m'ont aidé à préparer cette émission. Dona Madimba, c'est moi à la présentation. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.